Je suis avec Tony Beaufils à Japan Expo Comic Con. Bonjour.
Bonjour.
Également connu comme étant l'orc du donjon de Nahalbeuk. Mais là, on va d'abord parler de Cantis, ce roman que vous avez écrit avec Marie Fontaine.
Oui, c'est ça. C'est plutôt elle qui l'a écrit d'ailleurs. On l'a écrit à deux et la partie vraiment rédaction, c'est son truc parce qu'elle avait déjà. C'est un vrai écrivain, elle, contrairement à moi. Elle a déjà écrit deux romans sans moi et voilà, là, j'ai. On a collaboré là-dessus.
Cantis, au début, c'est vous, enfin votre groupe de musique. Qu'est-ce qui est venu en premier, le livre ou la musique?
Alors c'est précisément la musique. C'est là que j'interviens. C'est-à-dire que Cantis, j'ai d'abord créé comme un univers à la fois pour donner un nom à mon groupe de métal symphonique. Je voulais y raconter des histoires parce que déjà c'est une musique imagée, plein d'âge. Je me suis dit je vais faire une histoire, une saga de science-fiction. Enfin j'ai vu. Et puis l'album s'est mis à raconter une histoire dont le synopsis était quand même assez approximatif. Hein, les détails sont venus bien après. Et voilà, donc j'ai inventé le concept de Cantis, les grandes lignes. Et bien après, avec Marie Fontaine, on est rentré dans les détails, on a creusé et tout ce qui n'était qu'un synopsis brouillon raconté sur 52 minutes d'album est devenu un roman de 500 et quelques pages.
Comment est-ce que vous le présentez? Parce qu'il est extrêmement riche et la présentation en quatrième de couverture avec ce qu'est Alsric le méganthrope, ça donne pas beaucoup d'informations.
Ah moi je trouve pas, enfin moi je connais, je me rends compte, mais non, le méganthrope c'est très classique, enfin, ça veut dire... L'homme grand, c'est-à-dire une sorte de Superman, hein, ou un Jedi, enfin, il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire. Le méganthrope est quelqu'un qui a un certain nombre de pouvoirs, de télékinèse, même si le mot n'est pas employé, on essaye d'avoir un vocabulaire un peu différent dans Cantis. Voilà, il a des pouvoirs et c'est pas le seul. Il y a des méganthropes qui ont le pouvoir de transformer la matière dans ses détails, y compris se transformer eux-mêmes, etc., se rendre... plus ou moins indestructible, et voilà, on a exploité ce sujet-là, mais plein d'autres, en fait, il y a beaucoup de thèmes comme ça de la science-fiction qu'on a mélangé dans cette histoire-là. Cantis, c'est un monde très grand aussi, c'est une terre plate et infinie, c'est-à-dire une sorte de demi-univers qui s'étale, voilà. Donc il y a de quoi visiter, il y aura de quoi faire d'autres histoires dessus aussi.
Ce méganthrope, donc, il peut tout faire en remodelant la matière, cependant, il n'est pas omniscient. Ce qui fait que ça ne devient pas une sorte de gros despote. Au contraire, c'est un gars un peu tranquille qu'on pourrait éventuellement comparer à des yogis, enfin avec beaucoup de réflexion et beaucoup de recul par rapport justement à tous ses pouvoirs extraordinaires.
Oui, oui, on a imaginé ce qu'on imagine quand on imagine quelqu'un qui, je ne vais pas dire immortel, parce que peut-être qu'il mourra un jour, mais jusqu'à maintenant il n'est pas mort et ça fait longtemps, donc c'est quelqu'un de très ancien, donc on ne peut pas l'imaginer avec les mêmes préoccupations que nous autres humains. Il est assez détaché de tout, on peut même le juger un peu froid, c'est un peu voulu. C'est forcément quelqu'un qui n'est pas comme, qui fait les choses, il prend tout son temps par exemple, hein, il n'a pas la peur de la mort visiblement. Que dire d'autre?
Enfin, c'est pas une brute sanguinaire en fait. On n'est pas sur de l'héroïque. Enfin, alors c'est de la science-fiction bien sûr, mais on n'est pas dans les archétypes des héroïques fantasy avec j'ai un super pouvoir donc je vais conquérir le monde. Il est au contraire, il mène sa petite vie et du coup, je trouve ça plaisant en fait. On est loin des stéréotypes.
Oui, bah en même temps, du coup, c'est un stéréotype de héros. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va plutôt défendre les faibles, etc., etc. Je ne vais pas dévoiler ce qui se passe, mais il y a quand même des nuances à apporter. C'est aussi, encore une fois, quelqu'un qui peut se détacher des choses et qui est même l'est pas mal par moment et qui peut aussi choquer un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas effectivement la grosse brute sanguinaire. Il va plus choquer par son indifférence par moment. Mais j'en ai peut-être déjà trop dit. Mais voilà, c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres littératures, l'histoire de vampires, ça. Quand on a effectivement cette espèce d'ancienneté et pas la peur de la mort, je pense que voilà, il y a une autre psychologie qui se dégage.
Au niveau du roman, j'ai toujours un peu le sourire aux lèvres en fait. Je me retrouve dans une atmosphère que je pourrais comparer à ce qu'on a sur le disque monde ou dans H2G2. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire, mais il y a aussi toute la description de l'histoire et de ce qui s'y déroule. Comment est-ce que ça a été construit ça? Parce que ça pourrait, enfin chaque page pourrait tenir en fait en quelque sorte en deux lignes en disant voilà, le personnage entre dans la pièce, il fait ça. Et il y a toute la psychologie derrière. Ça a pris beaucoup de temps du coup à écrire.
Oui, ça a pris du temps à écrire. Ceci dit, déjà le côté sourire, ça vient donc en très grande partie de l'écriture de Marie Fontaine qui a ses petites influences à elle, hein, qui sont d'ailleurs pas forcément dans la SF classique moderne. Elle puise aussi beaucoup dans la littérature que ce soit du 18e siècle, dans l'Antiquité, etc. Et elle va essayer de donner un peu un sourire. Toujours, ça peut correspondre aussi à ce détachement dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on n'essaye pas de faire, par exemple, dans le pathos absolu, le drame, il peut y avoir des choses un peu tragiques, mais on va pas forcément les présenter d'une manière en sortant les violoncelles, quoi. Effectivement, c'est aussi, il y a de la description, et puis il y a des choses qui ont l'air de rien, qui ont l'air de détails, et qui, en fait, sont là pour... Je ne vais pas dire pour faire joli, mais si c'est ça, il s'agit aussi de visiter un monde, de s'intéresser à ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un peu aussi... moi, c'est ce que j'attends de la science-fiction. C'est-à-dire quand on suit, par exemple, là je prends un exemple très ancien, quand on suit Gulliver dans ses voyages à Lilliput, on n'a pas forcément besoin de toujours savoir s'il est en danger de mort, etc. On a aussi, c'est aussi sympa de savoir comment vivent les gens dans les pays qu'ils visitent. Et voilà, on a essayé de mélanger un peu ça. Et en plus, c'est un premier roman. Il fallait aussi présenter un monde, donc forcément... Tout au fil de l'histoire sont tissées aussi des petites descriptions. Il y a effectivement une quanticlopédie qui intervient notamment régulièrement entre chaque chapitre pour aider aussi la compréhension. C'est un prétexte à une illustration aussi, parce qu'on a eu un Mathieu Coudray qui nous a illustré ça. On a presque 40 illustrations. Ça permet de se plonger dans les... Mais ça, c'est pareil, je rouvre encore une parenthèse. En SF moderne, c'est pas rare non plus. Il y a Dune, etc., tout ça. Enfin, voilà, il y a énormément de gens qui ont déjà fait ce genre de choses avec des petites interventions. Jack Vance faisait beaucoup, des petits bouts d'encyclopédie pour de temps en temps avoir une anecdote, expliquer une chose, mais pas forcément sur un côté trop sérieux non plus. Hein, ça peut être une petite histoire dans l'histoire. Voilà, on fait ça beaucoup.
Justement, le fait d'avoir ce lexique à la fin, comment ça s'est construit ? Parce qu'on aurait pu aussi avoir un système de notes en bas de page. Vous n'avez pas peur au départ de un peu perdre le lecteur, parce que les deux premiers chapitres sont quand même avec beaucoup de références, donc il faut beaucoup aller chercher. Et puis une fois qu'on a passé les deux chapitres, par contre après c'est bien fluide. Effectivement, avec les dessins de Mathieu Coudray, ça illustre encore plus. Et voilà, faut faire un petit effort sur 10 pages et après on est bon, quoi.
Non, mais alors ça, j'ai une réponse, c'est que effectivement là, on avait peur avec des notes de bas de page que les gens se sentent obligés pour chaque nouveau, notamment dans les deux premiers chapitres, d'aller s'interrompre la lecture. Et il faut bien lire, en fait, mais peut-être une prochaine édition, on l'écrira en plus gros. Mais il y a une note des traducteurs, je mets entre guillemets, qui explique justement bien au début que cette chose, ce glossaire est là à titre indicatif pour étoffer, creuser, approfondir, mais en aucun cas il est nécessaire. On pense vraiment que les choses les vraiment indispensables, ce sont ces petites affichettes qu'il y a entre chaque chapitre. Donc, effectivement, je le dis pour les prochains lecteurs, il ne faut pas s'arrêter à chaque mot nouveau dans les premiers chapitres, parce qu'effectivement, dans les premiers chapitres, tous les mots sont nouveaux quasiment, et il faut se laisser bercer par la musique, et c'est un monde auto-cohérent, et on comprend très vite aussi ce que les mots veulent dire, parce qu'ils sont dans un contexte, et le contexte, normalement, permet de tout comprendre. Et les petits détails qui ne sont pas forcément compréhensibles, très, très vite, ils vont prendre sens, et s'ils sont pas compréhensibles au moment où on en parle, c'est que c'est pas nécessaire pour l'histoire. Et bien plus tard, on y reviendra, et des fois, au fil des chapitres, on va tomber sur sa définition, et là, coup de projecteur, et on comprend mieux. On a essayé de faire ça, en fait, de faire qu'on puisse lire sans aller à la quanticlopédie. La quanticlopédie est là pour permettre de creuser. Et comme effectivement elle est devenue très dense, vu le nombre de noms nouveaux, on s'est dit ce serait inhumain de la distiller tout au long de l'histoire, ça va trop la couper. Il faut la mettre à la fin pour que le lecteur ait son petit bonus et qu'il le lise quand il veut, éventuellement quand il a fini l'histoire ou quand il veut. Voilà.
Notre méganthrope, Alsric, va s'acoquiner avec des pirates dans son aventure. Pourquoi les pirates ? Parce que c'est sympa et tout ça ou...
Exactement, les pirates, c'est sympa, c'est. Ça fait un contrepoint tout simplement avec le côté le Alsric qui peut être encore une fois un peu froid, un peu sérieux, enfin pas trop sérieux non, il a un petit côté peut aussi être un peu farceur. Mais les pirates, eux, c'est le contraire. Ils sont le contraire de lui, c'est-à-dire qu'ils sont pressés par le temps. Et c'est des types qui sont obsédés par la mort et qui sont prêts à faire des folies, y compris risquer leur vie pour gagner de l'argolis, ce qui va les permettre de prolonger leur vie. C'est-à-dire c'est une métaphore de l'absurdité de certains choix de vie. Hein, on ne juge pas, mais voilà, que ce soit pirate ou grand entrepreneur qui prend même plus le temps de vivre tellement il est obsédé par ses revenus et qu'à la fin il meurt sur un tas de sous, mais il n'en a pas profité. C'est le pirate, mais le pirate c'est aussi un prétexte à faire encore une petite touche comique, hein, le côté capitaine ad hoc qu'on retrouve avec notre capitaine Nilo, etc. Moi j'ai des influences très, très modestes aussi, hein, bande dessinée, etc. Et il fallait qu'il y ait ce petit côté encore souriant, des prétextes, avoir des personnages un peu bébêtes aussi. Voilà, moi c'est pas du tout, c'est pas d'écriture à la Noël Buck, mais c'est vrai qu'un livre, je pouvais pas non plus faire un livre sans humour non plus. Donc il y a aussi des personnages un peu pataux, un peu pouette-pouette.
Si vous aviez, vous, la possibilité de donner vie dans notre monde à un des personnages de Cantis, vous prendriez lequel et qu'est-ce qu'il ferait actuellement?
Ouais, je pense que je prendrais Elstrick parce qu'il a plein de pouvoirs et je lui demanderais de me faciliter ma vie matérielle. Donc en cela, je suis un pirate moi aussi. C'est-à-dire que... non, mais je dis ça c'est ma première réaction toute bête, mais... non, oui, voilà, c'est ma réponse, mais je pense effectivement qu'il y a d'autres personnages qui doivent être plus... Quoique non, enfin plus intéressant, je sais pas. Elstrick a vécu des choses, il a sûrement des choses à dire. D'ailleurs, il y a un moment donné où les pirates vont lui poser plein de questions et ils veulent savoir tout. On attend de quelqu'un qui a vécu très longtemps aussi, qui a toutes les questions, la vie, l'univers et là. Et bon, il répond pas 42, mais ça pourrait être ça, quoi. Et... non, en fait, mais moi, j'ai pas de réponse, donc... voilà, c'est ma réponse, j'ai pas de réponse.
Un petit mot sans trop en parler, enfin, ça va être difficile du coup sur la réponse. Ce chapitre 13 bis, l'articulation, elle se fait comme ça d'un coup, on sait pas pourquoi, et puis finalement, bah, c'est pas grave. Comment l'idée de.
Ah bah, l'idée c'était. Enfin, j'espère que c'est compréhensible, c'est-à-dire que l'idée effectivement c'est d'avoir un embranchement de deux possibles. Bon, c'est vrai que là, déjà je dévoile, il faudrait pas que j'en dise d'autres. De toute façon, après, voilà, le comment, le pourquoi, tout ça c'est en lisant l'histoire. Et effectivement, c'était une manière amusante de, au lieu de le dire au lecteur, attention, là, on a un embranchement entre deux possibles, on s'est dit, tiens, on va écrire 13 bis, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais le dévoiler, c'est pas grave, hein, c'est les premières lignes du chapitre 13 bis sont les mêmes que le chapitre 13, donc on a l'impression que c'est presque une erreur de... Ce que je voulais dire, c'est que c'est un concept qui est quand même maintenant relativement connu en science-fiction, chez tout le monde, quand on le voit dans des tas de films, dans des tas de séries. Enfin, évidemment, il faut être un peu geek, quoi, mais effectivement, pour quelqu'un qui n'a jamais connu la science-fiction, peut-être que Cantis va être un peu dense, mais je suis même pas sûr, peut-être que j'ose espérer que tout ça se comprend bien, parce que c'est... Voilà, enfin, de toute façon, je pense que ouais, même quelqu'un qui a jamais eu science-fiction s'est toujours dit « Tiens, et si j'avais fait tel choix au lieu de celui-là, et si la vie était autrement ?» Donc voilà, on a fait ça. Je pense pas que ce soit ultra original. Ce qui est peut-être original, c'est effectivement de faire deux chapitres qui sont parallèles l'un derrière l'autre et qui ont le même nom presque, sauf qu'il y en a un c'est bis. Voilà.
Un petit mot sur votre prestation demain avec le donjon de Nalbuck. Comment ça se passe avec le donjon? Parce que vous faites des concerts quand même de plus en plus régulièrement, j'allais dire.
Non, en ce moment, je dirais que c'est plutôt creux. Ça va redémarrer parce qu'on vient de sortir un nouvel album en avril. Là. Et il y a eu un petit creux avant parce qu'il fallait effectivement l'enregistrer et tout ça. Et là, ça redémarre tout doucement. Oui, une petite régularité, mais ça va peut-être même encore accélérer un peu. Là, on a ce concert-là. Il fait 45 minutes, c'est un mini-concert. Hein, ça aussi permet de jouer devant des gens qui connaissent pas du tout Noël Bug, je pense. C'est aussi, je pense, l'intérêt de Japan Expo. Mais sinon, effectivement, on va nous retrouver à nos rendez-vous habituels. Cidre et Dragon en septembre, la Belgique avec Troll et Légende en avril 2013. Et j'espère qu'il y aura des trucs entre-temps. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas un gros carnet. Hein, c'est moi, plus on joue, plus je suis content. Ça, c'est ma revendication.
Et donc, en bande-son, en même temps que lire Cantis, forcément, il y a le CD, qu'on peut écouter d'ailleurs gratuitement sur Deezer.
Oui, c'est l'intérêt de Deezer, c'est que c'est gratuit pour les auditeurs, et pour les auteurs, il y a quelques centimes qui tombent quelque part sur un compte de mon label qui un jour me reverse un pourcentage. Donc voilà, écoutez sur Deezer, si vous n'avez pas les sous, c'est mieux que de télécharger parce que c'est aussi gratuit, mais il y a des petits centimes qui nous tombent quand même dedans, dans les poches à la fin. Et effectivement, on peut... par contre, sur Deezer, je crois qu'il y a des moments où ils interrompent, ils vous expliquent... je sais pas, il y a des messages, non?
Ça dépend du forfait, en fait.
Ah oui, il y a des forfaits, bah ouais, si vous avez un forfait, voilà, tout est bien. Voilà, effectivement. Je sais pas si, en revanche, je conseillerais aux gens de lire les 576 pages en écoutant l'album en boucle, parce que ça peut être lent, un peu fatigant au bout d'un moment. Mais bon, ce qui est marrant, c'est effectivement de le mettre de temps en temps, et notamment de le mettre au moment où on reconnaît qu'on est dans un chapitre qui correspond à telle chanson, parce que je pense qu'il y a des rapports qui se font bien. Il y a des fois où l'album raconte l'histoire, et de temps en temps, on va aussi présenter un personnage. La chanson Méganthrope nous parle du Méganthrope en général. Enfin, de celui-là, de Elstrick en particulier, mais c'est vrai qu'on peut mettre la chanson Méganthrope chaque fois qu'on le voit dans le livre, voilà. On va se faire sa comédie musicale soi-même, sa bande-son, voilà, comme on veut.
Et sinon, pour les gens qui veulent faire un petit effort et avoir un bel objet, il est disponible chez Brennus.
Le CD, oui. Il est aussi disponible dans la boutique Cantis.com. Il est aussi disponible sur le site de Argemius, qui évidemment, le Argemius, c'est l'éditeur qui vend le livre. Donc on peut avoir le CD ou le livre ou les deux en lot et c'est un peu moins cher. C'est la même chose sur Cantis.com. Et enfin, chez les disquaires pour le disque, chez les libraires pour le livre. Et s'il n'y a pas, ben, faut le commander. Voilà, c'est un label et un éditeur normaux. C'est-à-dire que partout en France, on peut le commander.
Un mot sur la foule impressionnante qu'il y a à Japan Expo et à Comic Con et l'ambiance un peu.
C'est impressionnant, je suis pas agoraphobe mais pas loin, ce qui fait que je vais sûrement pas y passer deux jours là tout le temps. Mais ça reste encore supportable, là on est samedi matin, c'est déjà la foule, ça devient déjà, on se croit un jour de marché, c'est vrai que c'est. Faut aimer ça. Bah, maintenant il y a des choses à voir, il y a beaucoup de choses, je vais sûrement pas tout voir, mais en tout cas ça fait plaisir de voir autant de gens qui se réunissent autour des. Parce qu'effectivement, c'est pas que la culture japonaise, je connais souvent, non, c'est Comic-Con, c'est tout ce qui est, c'est le monde des geeks, hein, donc c'est ultra vaste, et ça fait plaisir de voir tous ces gens-là, de voir qu'ils sont des dizaines, des centaines de milliers même. Ouais, j'aime bien.
Merci beaucoup.
Merci.